Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, de croyances et de spiritualité. Et je vous exposerai le parcours intellectuel qui m'a poussé à ma conclusion sur l'existence ou pas d'un Dieu unique, omnipuissant, omnipotent, omniprésent qui serait à l'origine de l'univers. Pour être clair, je ne remets pas en cause l'existence d'une force, d'une logique ou d'un ordre mathématique à l'univers. Ce que je questionne, c'est la version développée par les trois grandes religions abrahamiques, judaïsme, christianisme et islam. Ce qui a complètement chamboulé ma perception de ces religions, c'est mon intérêt pour l'anthropologie au travers d'un livre qui a changé ma vision du monde. Ce livre, c'est La Cité à travers l'Histoire de Lewis Mumford, publié en 1964. Ce livre s'intéresse à l'origine de la cité. Et Lewis Mumford se pose les questions suivantes. Qu'est-ce que la cité? Comment a-t-elle commencé? Quelles ont été les phases de son développement? Est-elle destinée à disparaître ou notre planète se transformera-t-elle en immense ruche urbaine? Et c'est au travers de ce livre que j'ai fait la découverte de la civilisation sumérienne, première civilisation de l'histoire de l'humanité qui naît en Mésopotamie 5000 ans avant Jésus-Christ, aussi appelée civilisation du Tigre et de l'Euphrate, parce que sa présence s'étend entre les deux fleuves. Et pour vous situer, aujourd'hui, cette civilisation se trouve à cheval entre la Syrie, l'Irak et l'Iran, et on va dire essentiellement la région Irak. Et il est intéressant de constater que tous les pays que l'Occident s'est acharné à détruire pendant les 20 dernières années sont des pays qui ont vu naître la première civilisation de l'histoire de l'humanité. Et depuis cette lecture, je n'ai jamais cessé d'être fasciné par cette civilisation. Tout d'abord parce qu'on connaît très peu de choses au sujet de la civilisation sumérienne, parce qu'elle est éloignée dans le temps, parce qu'il y a moins de vestiges, contrairement aux pyramides, aux pharaons, à la civilisation égyptienne, contrairement à la Grèce antique, à Rome, où là on a des traces un peu plus récentes. La civilisation sumérienne, malgré toutes les informations qu'on a tout de même réussi à collecter, reste une civilisation relativement mystérieuse. Et ce qui rend cette civilisation extrêmement fascinante, c'est tout d'abord parce que c'est la première civilisation à avoir créé des villes. Lewis Mumford dit « qui dit civilisation dit ville ». C'est comme ça qu'on définit une civilisation. Des peuples qui n'ont pas construits de villes ne sont pas des civilisations, c'est le fait de vivre dans la cité qui fait de nous une civilisation. Voilà tout simplement comment définir la civilisation si vous souhaitez trouver une définition. C'est la ville qui la définit, c'est le fait de vivre à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'humains au sein d'un même groupement. Et la première fois que c'est arrivé, eh bien c'était en Mésopotamie. Et on pouvait déjà, 3000 ans avant Jésus-Christ, trouver en Mésopotamie une douzaine de villes de 10 000 habitants ou plus, dont les plus célèbres sont Ur ou Ur, où se trouve la fameuse Ziggurat. La Ziggurat est l'une des premières formes de pyramide, Ninive également, et bien sûr Babylone. C'est aussi la civilisation qui a inventé l'écriture. Les Sumériens sont les premiers humains à avoir communiqué ou commencé à communiquer par voie écrite. C'est ce qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Et il faut savoir que l'écriture, à la base, n'a jamais été inventée ou développée pour écrire des textes ou de la poésie ou des textes religieux ou je ne sais quoi d'autre. À la base, son utilité était commerciale, elle était comptable et c'était pour enregistrer les comptes, enregistrer les impôts, savoir combien devait telle personne à telle personne, combien devait tel commerçant à tel autre commerçant, combien on devait au roi, à la ville. Ça servait essentiellement à enregistrer la comptabilité et les impôts. Parce qu'on a réalisé que dès qu'un système se sophistiquait, la voix orale ne suffisait plus. Ce qu'on pouvait faire dans une petite tribu, dans une petite communauté en disant « Ok, demain je te donne tant ou je dois te rembourser tant, t'inquiète pas, je te paierai, etc. » Quand l'échelle devient énorme, l'échelle d'une ville de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, on ne peut plus faire confiance à la parole des gens parce qu'elle s'oublie, seuls les écrits restent. parce que les humains étant ce qu'ils sont, ils sont susceptibles de mentir, de tricher. Donc l'écriture a été nécessaire lorsque l'échelle a changé, lorsque la taille de la ville a changé. Et voilà comment elle s'est naturellement développée en Mésopotamie, parce que la Mésopotamie est le premier endroit où on a commencé à avoir des villes à des échelles de villes modernes, finalement, quasiment. Et bien sûr, l'élément le plus important, et c'est là où je commence à rejoindre la question de la religion, l'élément le plus incroyable et l'un des textes fondateurs de l'humanité et de la civilisation, c'est le code d'Hammurabi. Hammurabi est le sixième roi de Babylone qui a vécu entre 1810 et 1750 avant Jésus-Christ. Notez bien cette date parce qu'on est 800 ans avant le Premier Testament, 800 ans avant toute forme de religion monothéiste ou du dieu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et le code d'Hammurabi était un ensemble de 282 lois inscrites dans la pierre qui étaient censées gérer les affaires de la cité. Et pourquoi Hammurabi, pourquoi ce roi a décidé d'écrire une liste de codes? Pourquoi ce roi a décidé d'écrire le premier texte de loi de l'histoire de l'humanité? Eh bien, comme pour les finances, comme pour l'argent, quand l'échelle grandit, quand l'échelle atteint celle de la ville et de la cité, on ne peut plus gérer les affaires de la ville sans texte écrit. Je m'explique. Dans un village, on a peut-être 2-3 conflits par jour, 2-3 bagarres par jour, un village de 200 personnes, on appelle le chef du village et on règle les affaires. Dans une ville de 10 000, 20 000, 30 000 habitants, on va peut-être avoir 50, 60, 100, 200 incidents par jour. Bagarres, conflits, vols, agressions, etc. On ne peut plus avoir de chef de village qui fait 200 réunions par jour. Ce n'est plus possible. Donc on va avoir plusieurs régents, plusieurs officiers qui vont gérer les affaires de la ville en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Chacun aura son quartier, son espace, sa région, sa ville, sa place de marché. Chacun va gérer son espace. Maintenant, comment vont-ils le faire s'il n'y a pas de code uni, de code universel qui leur donne la capacité de rendre justice de façon impartiale et pareil pour tout le monde? La seule façon d'y parvenir, c'est d'avoir un texte de loi. Et voilà comment Hammurabi, ce roi babylonien, a écrit le premier texte de loi de l'histoire de l'humanité qu'on a appelé le Code d'Hammurabi et qui servira à gérer, à rendre justice dans la cité. Et je vais vous lire quelques textes. Rappelez-vous qu'on est quasiment 1000 ans avant le Premier Testament. À cette époque, il n'y a pas de Dieu universel, le Dieu de la Bible n'existe pas, on ne sait pas ce que c'est, le message n'est pas arrivé. Ces textes sont issus d'un humain, c'est un homme, Hammurabi, qui a écrit ces textes de loi. Il y en a beaucoup, il y en a exactement 282, mais je vais vous en lire quelques-uns. Si un homme dans un procès s'est levé pour témoigner à charge, et s'il n'a pas justifié le propos qu'il a tenu, si cette cause est une cause de vie ou de mort, cet homme est passible de mort. Cette première loi nous dit quelque part que la diffamation, si elle peut conduire à la mort, est condamnable par la mort. Si tu dénonces quelqu'un et que cette personne est susceptible d'être tuée et qu'on réalise que tu as menti, tu seras puni par la mort. Une autre loi, si un homme a volé le trésor du dieu ou du palais, cet homme est passible de mort. Et celui qui aurait reçu de sa main l'objet volé est passible de mort. Là encore une fois, une autre loi qui condamne le vol par la mort. Là on ne déconne pas, on est chez les Sumériens, ça rigole pas. Le nombre de trucs condamnés par la mort, tu fais un pas de travers, on te tue. Mais quelque part on est obligé, sinon ça part en couille. Les humains étant ce qu'ils sont, si t'as pas des règles strictes, pour les tenir en laisse, pour du moins tenir en laisse ceux qui n'arrivent pas à tenir en place, t'es obligé d'avoir des choses un peu plus incisives, t'es obligé de faire peur, sinon ça marche pas. Autre loi, si un homme a pris un champ pour le cultiver, et si dans ce champ il n'a pas fait pousser de blé, on le convaincra de n'avoir pas travaillé le champ. Et il donnera au propriétaire du champ selon le rendement du voisin. Ça c'est une loi qui est destinée à condamner ou à combattre les feignasses. C'est-à-dire que si tu as un champ et que tu dis j'ai pas réussi à cultiver, il y a rien, je sais pas, ça pousse pas, et qu'il y a un champ voisin qui a cultivé plusieurs tonnes de récolte, eh bien on va te forcer à payer au propriétaire de la terre l'équivalent de ce qu'a cultivé le champ voisin, parce qu'il n'y a pas de raison à ce que tu n'y arrives pas. Et lorsqu'on connaît l'importance de la sécurité alimentaire, on comprend toute l'importance de cette loi qui pousse les gens à travailler. Lorsqu'on connaît la tendance naturelle de certains humains à la paresse, ce type de loi peut tout de suite calmer la personne qui est tentée de dire « le champ n'est pas bon, j'arrive pas à faire pousser, il a pas plu, etc. » On va regarder les voisins. Si les voisins ont cultivé, si les voisins ont fait pousser des choses, eh bien tu vas payer l'équivalent de ce qu'ils ont fait pousser parce que finalement tu es un menteur. Tu as la même terre, la même fertilité, la même pluviométrie, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire pousser des choses. Autre loi, si un homme a violenté la femme d'un homme qui n'a pas encore connu le mâle et demeure encore dans la maison paternelle, s'il a dormi dans son sein et si on le surprend, cet homme est passible de mort et cette femme sera relâchée. Un texte qui condamne tout simplement le viol par la mort. Autre texte, si le mari d'une femme l'a incriminée et si elle n'a pas été surprise dans la couche avec un autre mâle, elle jurera par le nom de Dieu et elle retournera à sa maison. Là, c'est une loi qui condamne, encore une fois, la diffamation. Si un homme accuse sa femme d'adultère et qu'il s'avère qu'elle n'a rien fait et qu'elle jure au nom du Dieu, mais certainement un Dieu sumérien, qu'elle est innocente, eh bien, elle retournera tout simplement à sa maison. Et ce premier élément permet de contredire tous ceux qui disent « Mais comment on aurait pu vivre sans la Bible, sans les religions? C'est ça qui met de l'ordre, c'est grâce à ça qu'on arrive à vivre en tant qu'humain, c'est ça qui nous aide à nous structurer. » Ben j'ai envie de répondre non, non, non et non. Les textes de loi, les textes qui nous apprennent à vivre ensemble, les textes qui permettent de structurer la cité, qui permettent de condamner ceux qui se comportent mal, existait bien avant les religions. Les religions n'ont rien apporté. Le texte d'Amourabi, aussi ancien soit-il, est largement supérieur à n'importe quel texte biblique ou coranique. Tout était déjà là. Et je vais aller même plus loin. À mon avis, la Bible a été intégralement pompée, le Premier Testament a été intégralement pompé sur le code d'Amourabi. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est le code d'Amourabi. Il n'y a rien de divin là-dedans, et j'aimerais bien qu'on m'explique si la Bible émane d'un Dieu, le même Dieu qui aurait créé l'univers, la Voie lactée, la Terre, les galaxies, etc., les planètes. Comment expliquer que ce Dieu ait le même niveau intellectuel qu'un roi mésopotamien? Moi, c'est ici que j'ai décroché, c'est à partir de là que j'ai décroché. Quand j'ai lu le code d'Amourabi et que je me suis dit ce truc était là 1000 ans avant la Bible, j'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus aucun fondement à toutes les religions monothéistes. Tout a été pompé sur les Sumériens. Les Sumériens ont écrit les premiers textes de loi, ceux qu'on considère aujourd'hui comme des textes fondateurs, des textes religieux fondateurs, que ce soit judaïsme, islam, christianisme. On a le sentiment que c'est Dieu qui nous a donné ça, qui nous a donné ces règles pour qu'on puisse bien vivre. Tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tout ça, c'était dans le texte d'Amourabi, dans le code d'Amourabi, avant même le moindre texte religieux au sens religion monothéiste ou abrahamique. Donc ça, c'est l'une des questions à laquelle j'aimerais qu'on apporte réponse, s'il y a des croyants qui souhaitent me donner la contradiction. Comment expliquer que Dieu ait à peu près le niveau intellectuel d'un roi sumérien? Comment expliquer que la Bible ne soit pas meilleure en termes de qualité de texte, en termes de justesse, de profondeur, d'intention? Parce que l'intention, c'est quoi? C'est que les humains vivent ensemble et qu'ils aient des règles pour pouvoir le faire, qu'on ne passe pas nos journées à se massacrer, à s'entretuer, à se violer, à se voler. Et le texte religieux avait pour but, du moins le Premier Testament, c'était régler les problèmes de la cité, régler les affaires des humains afin qu'ils puissent bien vivre ensemble. Eh bien tout cela existait déjà en Mésopotamie 1000 ans avant. 1000 ans avant le moindre texte abrahamique. Et pour les plus curieux qui veulent aller voir la stèle sur laquelle est gravé le code d'Amourabi, vous pouvez aller le faire au Louvre. Cette stèle a été découverte en 1901, entre 1901 et 1902. Et c'est pour moi aujourd'hui l'un des objets, cette stèle est l'un des objets les plus fascinants qui puissent exister sur Terre, parce que réalisez que, quand vous voyez ça, que c'est les premiers textes de loi, la première fois qu'on a décidé comment telle action devait être punie, comment telle affaire devait être conduite. C'est la première forme de texte universel qui devait expliquer à des humains et surtout à ceux qui devaient rendre justice comment le faire. Et pour moi, l'une des raisons essentielles pour laquelle je ne crois pas en Dieu, c'est que j'ai toujours trouvé les textes religieux d'un mauvais niveau. Que ce soit le Premier Testament, la Torah, ou les Évangiles, ou le Coran, j'ai toujours trouvé ça d'un niveau assez médiocre. En toute honnêteté, à chaque fois que je lisais un passage, je me disais, mais est-ce que la personne ou la force ou la puissance ou le phénomène qui a créé tout ça, c'est la même entité qui écrit ces textes religieux? C'est pas possible, tu comprends qu'il y a une contradiction. N'importe quel texte grec, n'importe quel ouvrage, l'Odyssée d'Homère, Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, Meditationes, ont un meilleur niveau que les textes abrahamiques. Les textes abrahamiques ont forcément fonctionné probablement par leur simplicité. C'est des textes simples, c'est des textes basiques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont imprimé les esprits. T'as pas besoin d'un quotient intellectuel extrêmement élevé pour les comprendre. C'est peut-être ça aussi le succès de ces religions, leur simplicité. Contrairement à un panthéon grec polythéiste avec une grande complexité, des interactions assez complexes entre les humains et les divinités, eh bien, la Bible a peut-être constitué une grande simplification parce que c'est simple en fait. Il y a Dieu, les anges, le diable. Tu fais du bien, tu vas au paradis. Tu fais le mal, tu vas en enfer. C'est d'une simplicité redoutable. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et forcément, tu es plus susceptible de séduire tout le monde avec ça. Quand c'est trop complexe, quand c'est trop intellectuel, quand le panthéon est trop sophistiqué, ben les gens ont du mal à suivre, ils comprennent pas. Alors que dans les religions monothéistes, c'est clair, t'as Dieu, tu vois, il est là, autour il y a les anges, puis il y a le diable, c'est le méchant, toi t'es là, t'es sur terre, on te surveille toute la journée, et c'est une autre chose aussi qui m'a éloigné des religions monothéistes, c'est que Dieu y est dépeint comme un psychopathe. C'est un psychopathe, vous imaginez? Quelqu'un avec cette puissance, alors je dis quelqu'un, une entité, une force, avec cette puissance qui passe son temps à surveiller les pauvres humains, à les brûler en enfer quand ils font le mal, à les laisser vivre au paradis lorsqu'ils ont fait le bien pour l'éternité. Est-ce que vous imaginez l'éternité, une éternité? Vous pensez pas que ça pourrait être chiant, ça? Et puis, c'est aussi un Dieu qui écrit des textes. Il communique par voie écrite. Voilà. Il est omnipuissant, omniprésent. Il pourrait écrire dans le ciel, sur des montagnes, peu importe. Hein, son message pourrait être universel. Mais il décide de communiquer par des messagers. Voilà. Il envoie des ministres. Moïse, Jésus, Mohamed. Il nous envoie ses ministres pour discuter, qui nous donnent leur propre version. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord. On aurait pu imaginer qu'un seul Dieu aurait pu faire preuve de cohérence, envoyer le même message à tout le monde. Eh bien non, et ça finit avec les guerres de religion. Les guerres de religion sont les guerres les plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. Les guerres de religion ont fait plus de morts que l'Empire romain pendant l'intégralité de son existence. Et les guerres de religion n'ont d'autre source que les incohérences entre les textes, entre les logiques, entre les croyances, alors ça pinaille un peu sur est-ce que Jésus est Dieu, ou est-ce que Jésus est le Fils de Dieu, ou est-ce que Jésus est un simple homme, ça pinaille sur des petits détails, mais ça manque de cohérence tout ça. Vous comprenez que une puissance mathématique aussi énorme que celle qui aurait pu créer l'univers ne peut pas communiquer avec une telle incohérence. C'est impossible. Lorsqu'on voit le génie mathématique, lorsqu'on essaye de concevoir le génie mathématique qu'il faut pour arriver à créer l'univers, on ne peut pas se dire que les textes religieux émanent de la même entité. C'est impossible. Et bien sûr, pour se greffer, ces religions monothéistes ont été obligées de faire dans la subtilité. Il y avait des croyances païennes qui existaient, il a fallu se greffer là-dessus parce que les gens les auraient rejetées sinon. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec Noël qui, comme par hasard, se colle sur le solstice d'hiver, qui était déjà une célébration faite par les païens. On a Pâques qui vient se greffer sur la fête de la fertilité, qui était déjà célébrée par les païens partout à travers le monde. On retrouve des équivalents de la fête de la fertilité chez les Égyptiens, chez les Mayas, chez les Incas, chez les Romains, chez les Grecs. Ça existe partout et bien sûr, Pâques vient se greffer sur cette fête qui existe déjà. Donc il faut bien comprendre que pour que la chrétienté, pour que la religion chrétienne soit acceptée par les païens, il a fallu jouer de subtilité pour venir greffer les fêtes religieuses sur les fêtes païennes déjà existantes, ce qui rendrait l'acceptation de cette religion un peu plus facile. Et ça, c'est quelque chose que Dan Brown explique très bien dans son roman Da Vinci Code, qui est bien sûr un roman de fiction, mais la particularité de Dan Brown, c'est qu'il prend de vraies informations scientifique, historique, qu'il vient greffer sur le conte, sur l'histoire. Et c'est une source d'information extrêmement intéressante sur la chrétienté, et c'est un point de vue extrêmement intéressant sur cette religion, sur le Vatican, qui n'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à la chrétienté. Pour moi, le Vatican est même la pire des choses qui puisse arriver, cette figure du pape qui vient s'interposer entre les croyants et ce potentiel Dieu et qui vient nous expliquer comment vivre. Et on voit aujourd'hui que c'est n'importe quoi. C'est le pape est devenu un politicien. Il n'a plus vraiment de rôle religieux. Et bien sûr, lorsque les croyants essayent de vous donner des éléments, parce qu'ils n'en ont pas, c'est ça qui est ce fameux Dieu qui a tout créé, personne n'est capable de prouver son existence. C'est uniquement basé sur la foi. Et quand certains essayent de m'expliquer pourquoi, par exemple, l'islam est une vraie religion qui émane de Dieu et c'est la seule vraie religion pour certains croyants, etc., souvent l'argument qu'on vous donne, c'est « Ah, mais tu sais, c'est un auditeur qui me l'avait dit, dans l'islam, il y a plein d'arguments scientifiques, il y a plein de choses que personne ne connaissait, mais qui étaient déjà dans le Coran. Comment expliques-tu ça ? » Et l'un des exemples qu'il m'a donné, c'est, tu sais que dans le Coran, on dit que la terre est ronde, alors que dans la chrétienté, tout le monde pensait à l'époque que la terre était plate. Et là, je vais vous calmer tout de suite avec ces histoires de vérité scientifique dans l'islam. Je vais vous le dire tout de suite et de façon très honnête, c'est une connerie absolue, c'est d'une profonde stupidité. On sait que la Terre est ronde depuis l'Antiquité. Les Grecs le savaient, peut-être même les Égyptiens avant eux. On savait que la Terre était ronde et les savants grecs avaient même mesuré sa circonférence en 200 avant Jésus-Christ. C'est l'astronome Érastotène de Cyrène qui avait constaté qu'elle devait faire à peu près 40 000 km de diamètre, ce qui est très proche du chiffre exact. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement eu une période obscure, on a connu une période obscurantiste et la chrétienté n'a pas aidé, où ce savoir, le savoir grec, s'est perdu et les musulmans l'ont récupéré par la suite. Pendant les premières invasions islamiques, quand l'islam était en expansion, quand la civilisation islamique était en expansion, elle est venue se greffer sur tous les savoirs existants. C'est la force de l'islam. Quand les musulmans sont arrivés en Syrie, en Iran, ils ont pris le savoir local, l'architecture locale, en Turquie notamment, et les musulmans étaient aussi des voyageurs, des commerçants. Le prophète de l'islam est un commerçant, et c'est au travers des caravanes et des voyages qu'il a découvert les religions monothéistes et qu'il a ramené à son retour le culte à la Mecque. Ce n'est que ça l'histoire en réalité. Il gérait des caravanes pour sa femme Khadija, l'une des plus riches commerçantes de la Mecque, et forcément, en voyageant, il rencontrait des gens, il rencontrait des juifs, des chrétiens qui lui ont raconté cette histoire de Dieu unique, qui lui ont raconté le culte monothéiste, et c'est comme ça qu'il a découvert toutes ces histoires. Et il n'y a aucune vérité scientifique dans le Coran que les Grecs ne connaissaient pas. Et une autre qualité, j'ai envie de dire, il n'y a pas que du mal dans la civilisation islamique, une autre qualité de la civilisation islamique, c'est qu'ils ont traduit le savoir grec. Les musulmans ont énormément traduit, et c'est même grâce à eux qu'on a récupéré aujourd'hui des informations qui auraient peut-être disparu. Et c'est cet intérêt pour la science de la civilisation islamique, ça a bien changé depuis, mais à l'époque il y avait un réel intérêt pour les mathématiques et pour la science dans le monde islamique, qui a fait que ben forcément des données scientifiques relativement correctes sont venues se greffer et se sont retrouvées dans le Coran. C'est ça la vraie histoire. Et là où je rejoins Richard Dawkins dans sa critique du dogme religieux au travers de son livre « Pour en finir avec Dieu », un excellent ouvrage, que vous soyez croyant ou pas, c'est un ouvrage qui permet de réfléchir à un moment où on s'autorise à avoir un esprit critique, où on est dans le dogme religieux, dans l'interdiction, dans le refus du blasphème, et à ce moment-là, c'est un comportement quasi sectaire. Et Dawkins dit que l'un des problèmes fondamentaux des religions monothéistes, c'est qu'elles empêchent le questionnement. Dès que tu commences à poser des questions, dès que tu commences à douter, t'es dans le blasphème. Et cette interdiction même est un problème. Parce que si Dieu existe, s'il est si grand, si fort, si puissant, pourquoi même instaurer la question de blasphème? Il peut se défendre seul, il est capable de résister à toute forme de critique. Quelque part, interdire la critique en religion, c'est reconnaître la fragilité, c'est reconnaître la fragilité de ce dogme. Lorsque tu es sûr de toi-même, tu n'as pas peur de la critique, tu n'as pas peur de la remise en question. Lorsque tu commences à instaurer des lois qui punissent la remise en question, et c'est le cas dans toutes les religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, l'islam, le christianisme, le blasphème est toujours puni. En islam, il est puni par la mort. Combien de journalistes, d'écrivains, d'auteurs ont été menacés, tués parce qu'ils ont blasphémé, parce qu'ils ont remis en question l'existence de Dieu. Encore récemment, Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, s'est fait poignarder en raison de ses positions. Il est condamné à mort. Il y a une fatwa sur Salman Rushdie. La fatwa, c'est la condamnation à mort dans le monde musulman. Et on peut se demander, mais si Dieu est si fort, si Dieu est si grand, le Dieu de la Voie lactée, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé la lumière, l'espace, est si fort, pourquoi a-t-il besoin des petits humains pour le protéger? Pourquoi a-t-il besoin de tel mufti ou de tel imam pour le protéger? Vous comprenez tout de suite que c'est pas sérieux. Et c'est ce que dit Dawkins. Les religions nous interdisent de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il les considère comme dangereuses. Dawkins va plus loin dans la réflexion. Il ne dit pas qu'il ne croit pas en Dieu et qu'il pense que c'est absurde. Il va plus loin. Il dit que c'est dangereux. Le dogme religieux est dangereux parce qu'il empêche de réfléchir, il empêche la critique, il empêche le propre arbitre. C'est une espèce de texte qui est là, auquel il faut croire et qu'il ne faut jamais remettre en cause. Je pense qu'il est critiquable. Je pense qu'il faut le remettre en cause. Je pense qu'il faut se poser la question de pourquoi le Premier Testament est intégralement pompé sur le code d'Hammurabi, un texte élaboré par un roi sumérien qui n'avait rien de divin et qui faisait tout sur la base du bon sens. Voilà d'où viennent les premiers textes religieux. Ils sont pompés sur la civilisation sumérienne. Ils sont pompés sur un texte babylonien, texte issu du bon sens qui est que, à un moment, lorsqu'on vit à plusieurs dans la cité, il faut un certain corpus de lois qui permettent de rendre la justice. Les humains sont passés de groupements nomades à des groupements sédentaires, de petits groupements sédentaires où on pouvait peut-être se rendre justice entre nous, à de grands groupements sédentaires dans des villes, dans des méga-villes, où il n'était plus possible de rendre justice comme on pouvait le faire dans un petit village au travers du chef de tribu. Voilà l'origine du premier texte de loi de l'histoire de l'humanité, et voilà d'où découlent par la suite tous les textes religieux monothéistes. C'est simplement la continuité du texte d'Hammurabi avec un élément divin, métaphysique, qui a donné une autre dimension à ces lois en tentant d'expliquer qu'elles émanent de Dieu. Et le dernier argument sur lequel je vais conclure, c'est celui qui tente de dire que c'est grâce aux religions que les humains sont bons. Si ce n'était pas la religion, les humains s'entretueraient. C'est la peur de l'enfer, la peur de Dieu, la peur du jugement dernier qui fait que les humains se comportent bien. Et là encore une fois, je pense que c'est faux, je pense que c'est archi faux. Je pense que les humains se comportent bien lorsqu'ils jugent que c'est dans leur intérêt de se comporter correctement. À un moment, le chaos finit par nuire à la collectivité et à nuire à nous-mêmes. Les Grecs n'ont jamais eu besoin des textes abrahamiques pour avoir des cités qui fonctionnaient correctement, qui étaient administrées correctement, où les gens ne passaient pas leur temps à s'entretuer, et quand ça arrivait, il y avait des moyens de rendre justice. Les civilisations ont correctement fonctionné bien avant les fameux textes religieux selon lesquels il faut vivre de telle ou de telle façon. Il y avait plein de pratiques qui existaient bien avant les textes abrahamiques, et je réfute l'idée selon laquelle les humains sont bons, ne s'entretuent pas et vivent correctement parce qu'ils ont peur de Dieu et c'est la religion qui a éduqué les gens. Il faut savoir que la religion ou les religions monothéistes sont une apparition assez récente dans notre histoire. 1000 ans avant Jésus-Christ, c'est rien. Il y a 3000 ans. Les humains ont commencé à se sédentariser il y a 10 000 ans. Les premières formes de villes et de cités remontent à il y a 6 000, 7 000 ans. Les humains ont su vivre bien avant les religions monothéistes. Les humains ont toujours su vivre correctement. Et d'ailleurs, il y a plein de parties du monde où les religions monothéistes ne sont jamais allées. Si on prend l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avant la découverte du continent, comment vivaient ces populations? Pourquoi ce Dieu universel a adressé son message uniquement à la région Jérusalem et sa périphérie? Pourquoi envoyer le texte religieux uniquement à Jérusalem et dans la péninsule arabique? Pourquoi tout se passe uniquement là-bas, chez les Sémites? Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellé. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les Sémites? Le Dieu universel, le Dieu qui a créé l'univers, a envoyé son message aux Sémites, qu'ils soient juifs ou arabes, et les a chargés de transmettre la parole aux autres peuples. Ça veut dire que tous les autres peuples sont des peuples de seconde classe? Les Européens, les Africains, les Indiens d'Amérique, les Incas, les Mayas, tous ces gens-là qui n'ont jamais reçu la parole divine, du moins pas directement, à la voyager depuis le Moyen-Orient, mais ils n'ont jamais reçu de révélation directe. Donc c'est des habitants de troisième classe. Il n'y a que les humains de la région de Jérusalem et de la Mecque qui ont le droit de recevoir la parole. La parole divine. Eh bien moi, rien que ça, ça me calme. Rien que ça, un Dieu universel qui n'est pas vraiment universel. Finalement, ce Dieu qu'on veut universel, c'est le Dieu des Sémites. Il n'a jamais été le Dieu des Vikings, le Dieu des Américains, des Indiens d'Amérique. Ça a toujours été finalement le Dieu des Sémites. Et les Sémites ont tenté d'imposer leur vision, hein, les Sémites juifs et les Sémites arabes. Hein, c'est des cousins, c'est la même région géographique. On est à peu près dans la même génétique. Même si aujourd'hui ils ont décidé de se foutre sur la gueule, les Sémites c'est le même peuple. Et c'est toutes ces contradictions qui font que je n'arrive pas à croire en Dieu. C'est toutes ces contradictions qui font que les religions monothéistes n'ont jamais eu aucun intérêt pour moi. Je n'ai jamais réussi à croire au message. Je n'ai jamais réussi à trouver aucun intérêt dans les textes. Pour être honnête, j'ai toujours trouvé les textes, ces textes-là, d'une grande médiocrité. Je préfère encore une fois largement lire Marc Aurèle ou l'Odyssée d'Homère ou les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle que un texte religieux du type Bible, Coran, Torah. Le niveau n'y est pas, je vais être très honnête avec vous, le niveau n'y est pas. C'est des histoires très médiocres, souvent perchées, c'est toujours de la science-fiction, il y a toujours de la magie, des trucs qu'on ne comprend pas, c'est vraiment des... ça part dans tous les sens et ce n'est même pas agréable. Et ça converge toujours vers la même histoire, tu fais le mal, tu vas en enfer, tu fais le bien, tu vas au paradis. Je suis désolé, mais si ça c'est le dieu de la Voie lactée, le dieu de l'univers, du cosmos, de la lumière, je suis désolé, mais j'arrive pas à y adhérer et je n'y adhérerai pas. Et je n'ai même pas à être désolé, ça ne m'intéresse pas. Voilà donc pourquoi je ne crois pas et pourquoi je ne peux pas et pourquoi je ne croirai jamais en Dieu. Le premier élément, c'est que dès qu'on s'intéresse à l'histoire, dès qu'on s'intéresse aux civilisations, dès qu'on s'intéresse à la cité, à la ville, au code juridique, aux premières formes de loi, dès qu'on s'intéresse aux Sumériens, au code d'Hammurabi, on comprend que tout a été pompé sur ce code. On comprend que, en fait, la réalité des textes religieux, la réalité des religions monothéistes trouve son origine à Sumer, chez ce roi babylonien visionnaire qui a décidé d'écrire le premier code de l'histoire de l'humanité pour gérer les affaires de la cité. En deux, je ne crois pas parce que j'ai toujours trouvé le message assez médiocre. J'ai jamais réussi à trouver les textes religieux transcendants. Encore une fois, je préfère lire les philosophes grecs que les textes religieux du type Bible, Torah, Coran. Voilà, pour être simple, hein, je n'y trouve pas de plaisir et je n'y trouve pas de sens. En trois, je trouve que le Dieu tel que décrit dans les religions monothéistes est un vrai psychopathe, cette histoire de punition, de paradis et d'enfer, de contrôle des humains, donner, créer des humains en admettant qu'il les ait créés avec des pulsions, des fautes, et ensuite les punir parce qu'ils répondent et réagissent à ces mêmes pulsions, je trouve que c'est de la folie, je trouve que c'est, voilà, c'est un dieu psychopathe, manipulateur, complètement flingué. Je ne trouve rien de bon dans tout ça, je ne trouve rien de grand, de beau et de bon. En 4, je ne pense pas que c'est la religion qui rende les gens bons, mais qu'ils sont bons par nature, d'une façon générale. Il y a toujours du bon et du mauvais, mais d'une façon générale, il est dans notre intérêt collectif de ne pas nous foutre sur la gueule, et c'est pour ça qu'on se tolère plus ou moins. C'est pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. Je ne tabasse pas mon voisin tous les matins parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je ne le fais pas parce que je n'ai aucun intérêt, et parce que si je le fais, ben le jour suivant, c'est lui qui va le faire. On va entrer dans un cercle de violence et de vengeance interminable, et ça sera dans l'intérêt de personne. Donc si je ne commets pas d'actes de violence envers mon voisin, ou envers mes collègues, ou envers les gens que je connais, c'est parce que le cercle de la violence finira par jouer contre moi. Donc c'est un simple équilibre social ou la recherche d'une forme de paix qui fait que je n'agresse pas les autres. Ce n'est pas la peur d'aller en enfer. Et c'est le cas pour la majorité des humains. Et d'ailleurs, vous verrez que lorsque les religions atterrissent dans des endroits où les gens réfléchissent correctement, où les gens sont bons, eh bien ça donne quelque chose de bon. Lorsque la même religion atterrit dans un endroit de merde, eh bien ça donne de la merde. Vous regardez par exemple l'évolution de l'islam en Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un islam assez doux, assez... c'est un mélange d'islam et de bouddhisme, j'ai envie de dire, en Indonésie, par exemple. Ça ne me choque pas. Vous regardez l'islam en Afghanistan, bon, ben, c'est un autre niveau, quoi. Pourquoi ? Parce que les Indonésiens, étant ce qu'ils sont, ils ont fait de l'islam une religion apaisée. Les Afghans, étant ce qu'ils sont, ils ont fait de l'islam une version extrême. Ce n'est pas la religion qui change les peuples, c'est les peuples qui changent et qui font la religion. Et pour conclure, j'ai envie de dire que le plus important est de faire la différence entre religion et spiritualité. L'humain est spirituel. Il est spirituel par essence. Laissez un homme seul sur une île, vous reviendrez le voir 3 ans plus tard, il se sera créé des dieux, des divinités, il aura commencé à dessiner sur les murs. L'humain a besoin de croire en une entité supérieure, ou du moins il a au moins besoin de donner un sens à son existence. Et il est important d'être spirituel et de croire en quelque chose. Je ne crois pas en Dieu, tel que défini dans les religions monothéistes, mais j'ai des croyances que je pourrais développer dans une autre vidéo, parce que celle-ci est déjà assez longue. J'ai des convictions concernant le fait qu'il est possible que nous soyons déjà venus d'une autre planète ou d'un autre monde. Notre présence sur Terre est suffisamment bizarre, intrigante, notre statut d'animal intelligent est suffisamment anormal, est suffisamment hors de l'évolution naturelle des choses, hein, le fameux chaînon manquant. On ne sait toujours pas comment la conscience est arrivée, on ne sait toujours pas pourquoi la conscience n'a touché aucun autre animal et pourquoi l'humain s'est dressé, il a commencé à marcher, sa tête a commencé à grossir, son cerveau a atteint des proportions gigantesques, jusqu'à lui poser des tracas. Hein. L'humain est trop intelligent, c'est de là que vient sa souffrance. Et je pense que ce n'est pas une évolution naturelle, il s'est passé quelque chose au moment de l'évolution, une bactérie, un virus, un contact avec une vie extraterrestre, élément dont les Sumériens parlent également. Il y a toute une référence à une vie extraterrestre ou à une forme de contact avec une vie extraterrestre qu'on retrouve dans les textes sumériens. Mais ça, c'est quelque chose dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo qui sera complémentaire à celle-ci et où je vous exposerai en quoi je crois réellement. Le conseil que j'ai envie de donner, c'est vous avez le droit de croire si vous voulez, mais ne laissez pas le dogme religieux vous aveugler. Ne soyez pas une espèce d'idiot religieux qui l'est souvent parce que ses parents le sont. En général, c'est comme ça, hein, les gens n'ont pas choisi. Quand les gens disent « Ah, je suis musulman, je ne changerai ça pour rien au monde », oui, mais tu l'es parce que tes parents le sont. Je connais très peu de gens qui se sont convertis, c'est extrêmement rare, ça arrive, mais se convertir à l'islam quand tu ne l'es pas, tu lis le texte, la première chose que tu as envie de te demander, mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça ne m'intéresse pas. Soyez croyant si vous voulez. Croyez, je respecte les croyants, j'ai pas de méchanceté, ni de haine, ni de ressenti vis-à-vis des croyants. Croyez si vous voulez. Ce que je déteste, c'est le prosélytisme. Ce que je déteste plus que tout au monde, c'est les gens qui viennent me dire tu devrais croire, ou pourquoi tu ne crois pas en Dieu, ou des gens qui me disent si tu avais lu le Coran, tu verrais, tu te convertirais. Eh bien, je vais tout de suite fermer le sujet, ou plutôt la question de la conversion. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible et j'ai lu la Torah. Je n'y ai trouvé aucun intérêt. C'était chiant, c'était gênant, c'était... voilà quoi. Et je pense que la majorité des musulmans n'ont pas lu le Coran, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu, surtout ceux qui sont nés en France, par exemple, qui ne lisent pas l'arabe, qui n'ont pas accès à l'arabe, et qui ne lisent pas beaucoup d'une façon générale, ne l'ont jamais lu dans son intégralité. Donc ils ont une idée comme ça de l'islam que leur ont transmis leurs parents ou leurs amis ou leur cercle de fréquentation, mais ils savent pas du tout ce que c'est en fait, ils pigent rien. Et s'ils lisaient vraiment les textes pour ce qu'ils sont, il verrait l'absurdité du truc. Et que ce soit islam, christianisme ou Torah, judaïsme, c'est la même chose, c'est le même logiciel, c'est la même histoire qui se répète depuis des millénaires et qui raconte le même truc un peu bébête de l'enfer et du paradis. Et bien sûr, ça ne concerne que moi, hein. Je n'y crois pas, je n'arrive pas à y croire de toute façon, ça serait une insulte à mon intelligence, je ne peux plus. Voilà peut-être la meilleure conclusion. Mon incapacité à croire en Dieu est quasiment une question de quotient intellectuel. Dès que tu as une certaine intelligence et que tu as la capacité et la volonté de remettre en cause certains éléments, tu ne peux plus croire en ces histoires. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je ferai une vidéo complément à celle-ci où j'évoquerai quelques pistes concernant l'origine de l'humanité. On reviendra bien sûr sur les Sumériens et sur certaines pistes que peuvent nous donner les Sumériens sur notre origine, l'origine de l'homme et l'origine de l'humanité. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.